Alors, heureux celui qui termine la phrase. Heureux celui qui
croit.
Qui croit? Écoute.
Que les péchés sont pardonnés.
Non, c'est à qui les péchés
sont pardonnés?
Heureux celui qui lit la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit. Ça que suppose le texte, c'est pas le thème on va parler du bonheur. Dans notre langue, le mot bonheur vient du latin augurium, d'où on a tiré le mot augure. Il y a une bonne augure et une mauvaise augure. Mais curieusement, de ce mot, on a aussi tiré le mot heur, H-E-U-R, qui est très rare de nos jours. Mais on a dit, il y a un bon heur, il y a un mauvais heur, donc bonheur, malheur. Bonheur ou être heureux désigne un état général à un instant ou à une époque donnée. Mais lorsque le compte n'y est pas, et bien c'est une catastrophe, c'est la déprime. Certains vont jusqu'au suicide, d'autres divorcent. On comprend qu'il y a tant de divorces, parce que on attend quelque chose, un état général bienfaisant. Or, en hébreu, c'est pas pareil. Le mot heureux découle du mot hébreu achar. Et achar désigne ce qui est droit, à la limite ce qui est debout, marcher droit, avancer, diriger, décider. Alors, si la langue française désigne le bonheur comme un état, l'hébreu désigne la source du bonheur. C'est pas pareil. Ensuite, dans une librairie, au rayon des nuls, il y a un livre introuvable, c'est Le bonheur pour les nuls. Alors, comment s'y prend-on pour être heureux? Les thérapeutes et les psys de tout genre font fortune grâce au nombre croissant de personnes qui cherchent une aide dans leur quête interminable du bonheur. Certains vont jusqu'à être violents, voire même commettre un crime, lorsque quelqu'un empiète sur ce que l'on croit être son bonheur. Alors, cette recherche du bonheur, à tout prix, découle de la philosophie grecque hédoniste. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hédonisme? Mais l'hédonisme, c'est la recherche du plaisir au-dessus de toute autre valeur pour être heureux. Ben, c'est le besoin d'apprécier, de trouver sa satisfaction, de se savoir estimé, d'être bien dans sa peau, d'avoir des mensurations au goût du jour, hein, faut le dire. C'est aussi les plaisirs de la table, c'est la sensualité, la sexualité libre, la pratique des arts, le dépassement dans les exploits sportifs. C'est le pied, c'est le bonheur. C'est un état général chargé d'émotions, de sentiments, de ressentis. On insiste beaucoup aujourd'hui, même dans les églises évangéliques, sur les ressentis. Alors la séduction est puissante. Cependant, la recherche du bonheur est toujours insatisfaite parce que les émotions, les sentiments fluctuent. Une fois on est tout en haut, une fois on est tout en bas. Et on est toujours à la recherche d'expériences nouvelles, mais illusoires. La Bible parle du bonheur. Mais que dit-elle exactement? Alors, dans la Bible, l'hédonisme est traduit par passion, délice, volupté, désir, plaisir. On retrouve aisément ces mots dans la Bible, mais ils sont cités plus souvent pour mettre en garde, parce que ces choses qui font partie de notre personne, de nous-mêmes, engendrent une idolâtrie des sentiments et des émotions, en sorte que l'on croit aux mensonges, des slogans par exemple, aussi longtemps que le menteur peut nous faire ressentir quelque chose. L'autre jour, j'ai vu à la télévision une publicité, vous savez, c'est très court, hein, les publicités, mais ça pénètre, c'était une minute et quelque chose. Une publicité sur un dentifrice, il y a le visage d'une belle jeune femme avec un rouge à lèvres vermillon éclatant et des dents blanches. Elle est heureuse, elle sourit et dit, le dentifrice donne une haleine fraîche et des dents blanches éclatantes. L'émotion est là, la séduction aussi. On n'a rien dit sur l'action de base d'un dentifrice. Alors les émissions de divertissement à la télévision, je ne regarde pas beaucoup la télévision, mais il y a un Patrick Sébastien qui défrait la chronique le samedi soir. Les émissions de divertissement à la télévision, même ce que nous pouvons lire dans les magazines, ont été pensées pour générer en nous une réponse émotionnelle. Même qu'il n'est pas rare de présenter parfois l'Évangile comme un moyen de trouver le bonheur, la tranquillité d'esprit, l'épanouissement personnel, n'est-ce pas, un état global, général. Mais ce n'est pas ce que l'Écriture enseigne. Et le droit incontestable de l'homme à être heureux n'est pas conforme à l'Écriture. Et pourquoi ? Mais parce que Dieu se préoccupe plus de l'état du cœur que de celui des émotions. De même que l'Écriture n'enseigne pas que toutes les recherches et les manières pour être heureux plaisent à Dieu et que toutes se valent. Dieu n'est pas un Dieu d'émotions. Et Dieu n'est pas pluraliste. C'est un Dieu de vérité. Alors l'accent dans l'Écriture n'est pas placé sur le bonheur, mais sur la sainteté. Et la sainteté, ce n'est pas un état. Ce n'est pas, on n'est pas saint pour être saint. Ce n'est pas une fin en soi. La sainteté, c'est être mis à part, séparé, consacré en vue de quelque chose. N'est-ce pas ? La loi de l'Éternel est comme un doigt qui indique quelque chose. Par exemple, être séparé de l'impureté, c'est établir l'ordre moral. Alors il y a un point que je vais aborder courtement, c'est l'imitation. Avant d'imiter, on se compare aux autres. Et Israël s'est toujours comparé au peuple avoisinant parce que, soi-disant, ils avaient une réussite économique meilleure qu'Israël. Et ils voulaient faire pareil. On veut être comme les autres, on veut avoir un roi. Mais Dieu ne veut pas qu'on se compare parce que chacun est unique. Il est vrai aussi qu'il n'est pas rare de voir des personnes décrites comme des originales et qui terminent comme une copie. Alors dans Lévitique 20, verset 26, il est écrit « Vous serez saints car je suis saint, je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. » Dans Exode 23, verset 24, il est dit « Tu n'imiteras pas ces peuples dans leur conduite. » Alors pourquoi être mis à part et ne pas imiter ? Parce qu'il n'y a rien dans le comportement qui ne soit appris. Et tout apprentissage se ramène à l'imitation. On parle du mimétisme, n'est-ce pas ? Dans mimétisme, il y a mime, on imite quelque chose. Alors l'imitation mène à la convoitise et à la violence. Pourquoi ? Parce que l'imitateur devient parfois aussi bon, sinon meilleur, que le modèle imité. Et dans ce cas-là, on cherche, il y a création, il y a naissance de jalousie, de tension, et on cherche à éliminer le modèle. C'est vrai dans les petites classes avec les enfants. C'est vrai aussi chez les grands et les puissants. Imaginez, mais les dégâts sont autres. Alors être mis à part et ne pas imiter les autres, peuple idolâtre et violent, est la manière de Dieu de dire ce qui est bon et d'être heureux. Dieu connaît l'aspiration de l'homme à être heureux, mais il y répond d'une autre manière. Alors maintenant, je vais lire le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alors ce psaume, on pourrait l'intituler le psaume des deux chemins ou le psaume du bon choix. Et le psaume commence par le mot « heureux » et on s'attend à lire ce qu'on doit faire pour être heureux. Or ce psaume commence en disant ce qu'il ne faut pas faire. Premier point, le bonheur a des ennemis. C'est marcher selon le conseil des méchants. C'est une relation occasionnelle. On fait un bout de chemin. Regardez et écoutez ceux qui vivent sans Dieu. La Bible décrit le méchant comme celui qui ne fera pas ce que Dieu veut. Il s'oppose à lui. La Bible dit encore que le méchant n'a pas de poids, il est creux, il est inutile parce que ses actions ne mènent à rien. Puis il y a s'arrêter sur le chemin. C'est une intention plus nette. On tient résolument en compagnie parce que ceux qui sont sur ce chemin méritent d'être écoutés un peu plus longtemps. Et plutôt que regarder et imiter de loin, on s'approche, s'implique, on se compromet, on veut être bien avec tout le monde, mais dans ce cas, il faut taire ses convictions par crainte d'offenser les autres. Et puis, il y a s'asseoir en compagnie des moqueurs. Si on était en marge, maintenant on est installé. On prend racine dans cette compagnie. Et les moqueurs sont légions. Ils sont plaisants. On leur donne le crédit de savoir bien vivre, ils sont intéressants quand on parle. Hein. Mais tout en plaisantant, ils dévaluent et tournent les vérités de l'Écriture en dérision, ils édulcorent ce que la Bible recommande. Alors comment peut-on être dans ce moule séduisant sans être contaminé? Et on finit par accepter que le chemin étroit n'est pas aussi étroit qu'on ne l'enseigne. Et si Jésus a prévenu en matière de faux prophètes, en disant « ce sont des loups ravisseurs, attention », eh bien, ce ne sont pas des loups ravisseurs, un peu de tolérance, n'est-ce pas? Inutile de mettre un écriteau « attention aux chiens méchants » quand il n'y a que des canaris dans la maison. C'est des choses qu'on m'a un jour répondu. Et pourtant, que de vie brûlée par manque de discernement. Que de vie brûlée par manque de discernement. Prenons garde. Ceux qu'on fréquente le plus mouleront le plus notre personnalité. Alors, le bonheur à des méchants, d'abord un conseil, un chemin qui aboutit à une compagnie, le psaume décrit une progression graduelle et imperceptible qui éloigne de Dieu. Deuxième point, le bonheur se mémorise. Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ben oui, il prend son plaisir dans l'enseignement de l'Écriture parce qu'il y trouve comment vivre, pour être en accord avec ce que la Bible recommande et pour être en paix avec les autres. Ce n'est pas facile, hein? Mais cela mène à la bénédiction. Lire, creuser, chercher les trésors de la foi comme un mineur, on acquérera la sagesse d'en haut, qui selon Jacques 3, verset 17, la sagesse d'en haut, elle est premièrement pure, Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, exempte de duplicité et d'hypocrisie, et pleine de bons fruits. À force d'avoir lu ce verset, je le connais par cœur. Je prie tous les jours. J'ai besoin de sagesse. Méditer l'Écriture. Mais méditer, c'est avant tout redire, répéter, considérer. D'où mémoriser l'Écriture. Et puis méditer jour et nuit ne veut pas dire qu'on doit lire la Bible toute la journée et toute la nuit, mais c'est synonyme de constance. Toujours. Laisser l'Écriture influencer les comportements, les pensées, les habitudes. Permettez-lui de pénétrer dans la vie propre. Par exemple, dans Éphésiens 4, verset 12, il est dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre profondément, jusqu'à séparer, entre autres, âme et esprit, jusqu'à séparer ce qui vient de l'homme et ce qui vient de l'esprit. Souvent, il y a le mélange en nous, en moi aussi. Mais la parole de Dieu va faire en sorte que ces choses vont se clarifier et se séparer. Dieu bénira une telle vie. Et inutile de lire l'Écriture en disant simplement que c'est intéressant. Dans Jacques 1, verset 22, il est écrit « N'allez pas vous tromper vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la en pratique. Mais celui qui ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite et qui la met en pratique, celui-là sera béni de Dieu dans son activité. » Ainsi, selon l'Écriture, être heureux est une conséquence, un résultat, le fruit d'une progression. C'est être en marche vers un but où l'arrivée récompense le chemin parcouru. Et là, on est loin du bonheur considéré comme un état général animé par des sentiments fluctuants. Le bonheur a des ennemis. Le bonheur se mémorise, mais le bonheur est productif. Parce que dans ce psaume, il est dit, le juste est comme un arbre. Il est et non pas il sera. L'arbre, c'est l'image de la stabilité qui contraste avec ceux qui sont comme la balle du blé que le vent dissipe. Ceux qui ne prennent pas racine dans l'Écriture n'ont pas de stabilité. Ils vont d'une décision à l'autre, d'une influence à l'autre, ballottés au gré des idées. Il ne faut pas spiritualiser là. Hein. Ne croyez surtout pas que ça ne s'applique qu'au monde. Il y a dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, je crois que c'est au verset 14. Verset 13 qui dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. » Connaissance, lire l'Écriture. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Ça nous arrive aussi. Et ça m'arrive aussi à moi. Emportés, flottants à toutes sortes d'idées. Je me permets de rajouter, c'est d'autant plus grave que nous avons vécu une période d'élection où il y a eu des débats contradictoires entre la gauche, entre la droite, les mensonges des uns, les mensonges des autres, ce qui a été fait par les uns, pas fait par les autres, et voilà que soudainement on prend position. Pour l'un, pour l'autre, on est ballotté par toutes sortes d'idées. Alors, David dit trois choses au sujet de cet arbre. Un, il est planté près d'un courant d'eau. Les racines peuvent facilement tirer les nutriments nécessaires à la croissance. Le courant d'eau est la parole de Dieu qui donne la vie, quelque chose qui brûle en nous, comme l'amour de Dieu qui est fort comme l'amour, mais qui brûle. Hein. C'est Jérémie qui dit dans Jérémie chapitre 20, « À force d'être persécuté, pourchassé, rejeté, il a dit, désormais je vais me taire. » Mais il dit, la parole en moi était un feu dévorant. On parle de laïcité, mais comment être laïque quand on a en nous quelque chose, une personne, Jésus-Christ? Il est planté près d'un courant d'eau, on écoute les messages, les prédications, sans vraiment retenir ou se souvenir des prédications d'il y a quelque temps. Mais l'intérêt est de mémoriser. Je ne me souviens pas de ce que j'ai mangé il y a une semaine, mais je sais que je me suis nourri. C'est là l'essentiel. Et l'Esprit Saint fera son œuvre, parfois à notre insu. Ensuite, cet arbre donne son fruit en sa saison. Il n'y a pas de description des fruits, ni indication sur l'aspect, sur la taille, la qualité, encore moins sur la quantité. La Bible dit simplement qu'il y a du fruit. Et un arbre qui porte du fruit est un arbre qui a de la valeur et qui est utile. Vivre selon ce qu'enseigne de l'Écriture nous rend utile sous diverses formes. Mais comme le dit ce verset, rappelons-nous que le fruit n'est pas immédiat. Il y a une saison, il y a un temps pour le fruit. Et ensuite, son feuillage ne flétrit pas. Il y a une vitalité dans celui qui s'accroche quotidiennement à la parole de Dieu. Il est verdoyant. Vous savez, dans verdoyant, il y a vert. On arrive à décrocher des avis qui sont verts, pleins de vérité. Il vit, il prospère. Il médite. Celui qui médite et retient l'enseignement de l'Écriture ne cesse jamais. On n'est pas à l'oral du bac. Il reste branché, connecté. Et tout ce qu'il fait, dit le psaume, lui réussit. Mais c'est dans le sens où ce qu'il entreprend s'accomplit de façon satisfaisante. C'est agréable à tous, sans que ce soit pour autant un processus magique ou automatique. Cela se fait sans bruit, sans tapage ni trompette. Je dois apprendre. Nous devons apprendre que le plus souvent, ça passe inaperçu, mais on voit un résultat. Et là où je dois apprendre, c'est que rien de ce qui compte aux yeux de Dieu ne se fait sur le devant de la scène. C'est dans le secret des cœurs, par son esprit, que Dieu agit. Ce qui ne veut pas dire que celui qui réussit amasse beaucoup de richesses, possède beaucoup de choses et vit dans une grande et belle maison. Ce n'est pas la réalisation de soi-même selon les normes de notre société, c'est la réalisation de l'œuvre de Dieu en nous. C'est un devenir progressif, une marche. Dans Ésaïe 61, verset 3, il est écrit « Vous serez appelés des chaînes de la justice. » Vous serez lassés au futur, parce que pour faire un chaîne, il faut au moins 50 ans. Vous serez appelés des chaînes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Il y a aussi le psaume 25, verset 13, où il est dit « Celui-ci passe des nuits heureuses. Sa descendance possédera le pays et le Seigneur lui fera connaître son alliance. » Le Seigneur lui fera connaître le salut. Pas seulement pour notre âme, le salut complet pour toute la personne. Dieu nous appelle au salut et nous élève à la dignité d'enfant de Dieu pour que nous éprouvions le bonheur, mais pas au détriment de la sainteté. Le bonheur n'est jamais un objectif à atteindre. Si le bonheur est un but, alors il sera un savon humide qu'on tente de rattraper dans la baignoire, mais qui glisse toujours entre les doigts. Dieu nous appelle à expérimenter un bonheur saint, réservé, mis à part, séparé de l'impureté, en vue de glorifier le Seigneur et non de glorifier la personne. Selon l'Écriture, être heureux ne découle pas du mimétisme, de l'imitation qu'accompagne la frustration, la convoitise, la violence et les conflits. Vous n'imiterez pas ces peuples dans leur conduite. Vous n'imiterez pas la société dans sa recherche égoïste. Mais soyez saints, car je suis saint, dit le Seigneur. Alors, au-delà des difficultés, des peines, des séparations qu'on vit, petite parenthèse, dans le psaume 56, il est dit que dans les cieux, il y a une outre où Dieu prend toutes nos larmes. Hein. Il y a aussi un livre, un registre où Dieu note toutes nos plaintes. Ça fait partie du bonheur. Alors, au-delà des difficultés, des peines, des séparations qui nous assaillent inévitablement, c'est être en marche. C'est une conséquence. C'est un dividende. C'est un retour sur investissement où bonheur et bénédiction sont inséparables de communion avec Dieu et obéissance à sa parole. L'un ne va pas sans l'autre et c'est un principe de vie que Dieu a établi pour l'homme et qui traverse toute l'Écriture. Le bonheur a des ennemis, le bonheur se mémorise, le bonheur est productif. À la fin, il y a une approbation. L'Éternel, dit ce psaume, connaît la voie des justes. Et le mot connaître a souvent dans la Bible le sens de relation très proche, comme la relation entre un homme et une femme. Et ce verset est surtout à comprendre dans le contexte du jugement qui est nommé dans ce psaume. Le jour vient et ce jour est résolument en marche où la réalité du juste et de l'injuste sera clarifiée. L'ivraie sera séparée, le bon grain restera en dernier et sera amassé dans les greniers célestes, dans le pays du soleil de justice où Dieu nous accueillera parmi ceux qui ont vaincu le monde et où la louange et l'adoration remplaceront nos supplications. Retenons l'encouragement que nous donne ce psaume. Être heureux, c'est en marche, c'est être en marche, c'est mener une vie droite, mais c'est une grâce, c'est pas un dû. Et c'est une grâce de se laisser façonner au travers de l'écoute de l'Écriture. C'est une grâce aussi de se laisser purifier de tous les emprunts à long terme que nous faisons, moi aussi, comme nous le dit le verset 4 de ce psaume, avec l'image du vent qui fait s'envoler la balle du blé et garde le bon dépôt. La balle du blé, les causes du blé, qui est extrêmement légère. Si le bonheur est le résultat d'un choix, alors faisons le bon choix. L'Écriture dit, j'ai mis devant toi deux chemins. J'ai mis devant toi bénédiction, malédiction. Choisis la vie. Il n'y a pas d'âge pour faire le bon choix, mais il y a certainement un trop tard, comme le dit ce psaume, il n'en est pas ainsi des méchants, ils ne résistent pas au jour de jugement. Alors là aussi, il ne faut pas spiritualiser, le jour du jugement c'est plus tard, n'est-ce pas? Le jour du jugement, ce n'est pas forcément à la gare terminus, parce qu'il y a d'autres gares avant. Que le Seigneur nous accompagne dans notre réflexion afin que nous soyons heureux et en paix. Amen. Amen.